accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer.
Bonjour à tous, le divorce est donc acté, mais pour quand ? David Cameron, le Premier ministre britannique, l'a déjà dit, pas question de déclencher tout de suite le fameux article 50 du traité européen qui signe la fin de l'Europe à 28. Ce serait son successeur qui, à l'automne, devrait s'en charger. Un attentisme qui n'est pas du goût de tous les dirigeants européens, qui multiplie les réunions en prévision du sommet européen de mardi et mercredi, qui s'annonce déjà tendu. La vague de fond du Brexit n'en finit pas de secouer l'ensemble du continent. Ainsi, aux Pays-Bas, certains commencent à penser de plus en plus sérieusement au Nexit. Comprenez les Néerlandais hors d'Europe. Selon les sondages, seuls 47% des Hollandais seraient pour, mais l'extrême droite, l'extrême gauche et certaines associations de citoyens se prennent à rêver. Antoine Moutou est allé prendre la température à Hoek van Holland, une petite ville de la mer du Nord, directement connectée par bateau à l'Angleterre.
Le terminal de passagers de la petite ville balnéaire de Hoek van Holland se remplit peu à peu.
Mami ! Mami !
Au loin, un immense ferry fait son entrée dans le port. L'embarcation en provenance de Harwich en Angleterre ramène avec elle de très nombreux citoyens britanniques et néerlandais. La plupart d'entre eux se trouvaient au Royaume-Uni au moment des résultats du référendum sur le Brexit. Assis sur un banc, Cécile, 44 ans, et Robert, 42 ans, sont tous les deux venus de Rotterdam. Ils attendent leur fils de retour d'un stage à Londres. Ils sont très remontés contre le vote des Britanniques.
Moi, je suis très déçu parce que sans l'Angleterre, eh ben, l'Europe, c'est plus l'Europe.
À mes yeux, les gens qui ont voté pour le Brexit sont des idiots. Pour atteindre de grandes choses, il faut travailler ensemble et pas tout seul dans son coin. Nous aussi, nous trouvons que l'on donne trop d'argent à Bruxelles et il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Mais le Brexit n'est vraiment pas une solution.
Marlena, 64 ans, pousse son chariot rempli de valises jusqu'au parking du terminal. Cette néerlandaise a passé quelques jours chez ses petits-enfants en Angleterre. Elle comprend très bien la décision des Britanniques.
L'Union européenne veut ça. Alors il faut payer ci, puis encore ça. Mais pour qui payons-nous tout ça ? En tout cas, ni pour nous, ni pour nos petits-enfants.
Alors lorsqu'on demande à Marlena si elle souhaite que les Pays-Bas quittent eux aussi l'Union européenne, sa réponse ne se fait pas attendre.
Je dirais oui. Oui, il faut sortir de l'Union européenne, car c'est trop difficile pour nous. On a travaillé dur, et qu'est-ce qui nous reste ? À la fin de l'année, quelle somme les Pays-Bas devront encore payer à l'Union européenne ? Mais d'où sortent tous ces calculs ?
La peur de l'avenir et le sentiment d'être spolié par Bruxelles, c'est justement l'un des principaux arguments du parti néerlandais d'extrême droite, PVV. Son chef, Geert Wilders, s'est réjoui des résultats du référendum au Royaume-Uni. Il demande maintenant le Nexit, à savoir la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Dans le centre d'Amsterdam, Thierry Baudet a encore du mal à y croire. Ce militant anti-Union européenne a déjà contraint le gouvernement à organiser une consultation populaire sur l'Ukraine et l'Europe. Et il mène depuis longtemps campagne pour la tenue d'un référendum sur le Nexit. Autant dire qu'avec les résultats du vote au Royaume-Uni, il se sent pousser des ailes.
Je n'ai pas dormi toute la nuit. Du jeudi à vendredi, c'était vraiment excitant. J'ai félicité immédiatement mes amis au Royaume-Uni qui ont gagné. Ce que s'est passé au Royaume-Uni puisse aussi se passer aux Pays-Bas. Il y a maintenant une majorité des Néerlandais qui sont pour un référendum sur l'Union européenne.
Et les graves turbulences économiques que connaît le Royaume-Uni depuis les résultats du référendum n'effraient même pas Thierry Baudet.
C'est la panique de courte durée et ça va restabiliser, je pense, dans quelques semaines déjà.
Ces derniers mois, Thierry Baudet a beaucoup fait parler de lui. Avec son association, il a obligé le gouvernement néerlandais à mettre en place un vote national sur le partenariat d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Malgré un faible taux de participation, 61% des électeurs ont rejeté l'accord contre lequel l'extrême droite, mais aussi la gauche radicale néerlandaise, ont fait campagne. Un référendum à titre purement consultatif, mais qui va contraindre le gouvernement à faire pression sur l'Union européenne. Harry van Bommel est député du parti de gauche radicale du Socialistische Partij. Il est farouchement opposé à Bruxelles et espère que le résultat du référendum sur le Brexit va changer l'Union européenne.
L'Europe s'occupe maintenant de notre budget, de nos finances, et veut nous faire payer des impôts européens. Sauf que ce n'est pas ce que veulent les citoyens. Mais je pense que maintenant, nous allons vraiment pouvoir mener une discussion sur une véritable réforme de l'Union européenne.
Et tant pis si pour ça, il faut s'allier à des ennemis naturels, comme l'extrême droite de Geert Wilders.
L'objectif est le même. Mais les motifs, eux, sont différents. Donc même si les autres ne le font pas pour les mêmes raisons, tant que nous atteignons ensemble notre but, leur aide est la bienvenue.
En attendant, c'est l'extrême droite pro-Nexit qui monte. À moins d'un an des législatives, les derniers sondages lui sont très favorables et le donnent premier parti à la chambre basse du Parlement.
Et au Royaume-Uni, ce sont les partisans du maintien dans l'Union européenne qui se réveillent après un week-end de cauchemar. Plus de 3,2 millions de signatures sur une pétition en faveur d'un nouveau référendum qui a peu de chances de jamais voir le jour. Le Brexit, ultime épisode d'une relation entre le Royaume-Uni et l'Europe qui a toujours été tumultueuse. Comme nous l'explique notre correspondante Marie Billon, l'histoire avec un grand H a d'ailleurs été largement utilisée dans cette campagne, y compris le fameux discours de Winston Churchill sur les États-Unis d'Europe.
Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe. Mais je vous préviens, nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous voulons former les États-Unis d'Europe, ou quel que soit le nom qui sera choisi, il nous faut commencer dès maintenant.
Winston Churchill, alors ex et futur Premier ministre britannique, a prononcé ce discours le 19 novembre 1946, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il voulait créer la paix, scellée par un contrat légal pour ne plus revoir les mêmes atrocités. Dans le débat sur le Brexit, les deux camps ont voulu s'approprier cette grande figure de l'histoire britannique. John Cholmley, professeur à l'université d'East Anglia, fait partie du groupe eurosceptique Les historiens pour le Royaume-Uni.
Tous ceux qui ont pris la peine de lire le discours de Churchill ou qu'ils connaissent un tant soit peu, ils savent qu'il parlait de l'Europe continentale, sans inclure la Grande-Bretagne. Il voulait que les Français et les Allemands arrêtent de se taper dessus, que les pays continentaux coopèrent pour que les Britanniques n'aient pas à être appelés de nouveau à la rescousse.
Le petit-fils de Churchill, Sir Nicholas Holmes, a de son côté estimé que son grand-père serait contre un Brexit, notamment parce que l'UE est une garante de la paix. Joe Maiolo est professeur d'histoire au King's College de Londres.
L'Europe, que ce soit la communauté du charbon et de l'acier, le traité de Rome et tous les développements qui ont suivi, est parvenue à enterrer une hache de guerre tellement destructrice pour le continent. Fondamentalement, l'Europe est pour la paix.
Les deux camps n'ont pas hésité à réveiller les morts pour les intégrer à leur campagne. On a évoqué la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, Napoléon et la bataille de Waterloo, le Blitz lors de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui fait que la Grande-Bretagne est une île qui ne regarderait vers le continent que quand quelque chose d'intéressant ou de grave s'y passe. C'est une instrumentalisation de l'histoire, dénonce Joe Maiolo.
L'idée que la Grande-Bretagne a été détachée de l'histoire européenne à un quelconque moment est une invention du 19e siècle. Les Britanniques, Anglais, Écossais et Gallois ont toujours fait partie de l'Europe. À travers le système ecclésiastique et économique médiéval, à travers les guerres civiles du 17e siècle jusqu'au conflit du 20e siècle.
Pour John Cholmley, il y a quand même une cassure dans l'histoire qui a nourri la mentalité insulaire des Britanniques. C'est le divorce du fameux roi Henri VIII.
Depuis la réforme du XVIe siècle, la Grande-Bretagne n'a pas eu la même relation avec l'Europe que les autres pays qui sont restés catholiques. Nous avons quitté Rome et développé une tradition religieuse différente. Le concept de subsidiarité, si important au sein de l'UE, est issu de la pensée catholique et cela n'a jamais été vraiment populaire ici. Ça veut dire qu'il y a tout un pan du concept de souveraineté que nous ne comprenons pas comme le reste des Européens.
En clair, dans la construction européenne, le principe de subsidiarité est une règle de répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Et pour l'historien, le fait que la Grande-Bretagne n'ait jamais été envahie depuis les Normands en 1066 et qu'elle n'a donc jamais eu à compromettre ou à abandonner sa souveraineté par la force explique aussi sa relation de défiance envers le continent et une union politique européenne. Elle est hostile à l'idée d'abandonner une partie de sa souveraineté par choix. Voilà pourquoi les choses se sont compliquées dans les années 90, selon John Charmley.
L'euroscepticisme n'a vraiment émergé au Royaume-Uni qu'après le traité de Maastricht, parce que c'est le moment où les valeurs des pères fondateurs, notamment celles de subsidiarité, ont été mises au second plan. Margaret Thatcher elle-même était, de manière générale, plutôt favorable à l'UE avant ce traité. Ce n'est qu'après qu'elle a commencé à s'inquiéter.
C'est vrai qu'on se souvient peu de Margaret Thatcher éprouvant de la tendresse envers l'idée européenne. Elle est plutôt célèbre pour son fameux no, no, no.
Oui, la Commission veut étendre ses pouvoirs. Oui, elle est composée de personnes qui n'ont pas été élues. Et je ne veux pas que la Commission ait plus de pouvoir face à notre Parlement. Nous ne sommes pas d'accord. Le président de la Commission, Jacques Delors, a dit qu'il voulait que le Parlement européen soit le corps démocratique de la communauté, que la Commission soit l'exécutif et que le Conseil des ministres européens soit le Sénat. Non, non, non.
No, no, no.
La Dame de Fer a aussi montré sa poigne sur la question de la contribution au budget européen. « I want my money back »,« je veux qu'on me rende mon argent », avait-elle martelé, obtenant ainsi un rabais toujours d'actualité pour le Royaume-Uni. Selon Joe Maiolo, comme beaucoup de Britanniques, Margaret Thatcher adorait détester l'Europe.
Margaret Thatcher wanted to be in Europe. She was wielding
Madame Thatcher voulait être en Europe.
In Europe. The handbag.
C'est en Europe qu'elle brandissait son sac à main comme une massue. Ça n'avait de sens qu'en étant dans l'Union, parce qu'il y a toujours quelqu'un sur qui taper, quelqu'un à portée de sac à main.
No sense to think that way.
La Dame de Fer n'est plus, mais le punching ball européen, lui, est toujours là. La tentation est d'ordinaire de se défouler sur un plus petit que soi. En mettant tout sur le dos de l'Europe, le Royaume-Uni, au moins, ne s'attaque pas à plus faible.
Don't go. If I got on my knees and I pleaded with you not to go but to stay in my arms, would you walk out the door like you did once before? Would this time be different?
Et justement, en parlant de petits territoires et d'histoire, Gibraltar veut faire entendre sa voix. La petite enclave au sud de l'Espagne, britannique depuis 1713, a voté à 96% contre le Brexit. De quoi donner des arguments à Madrid, qui réclame régulièrement la fin de la colonisation britannique et demande aujourd'hui une souveraineté partagée à Madrid, François Musso.
À Gibraltar, petit territoire de 7 km² et dernière colonie en Europe, on ne s'habitue pas à l'idée que le Royaume-Uni ait décidé de quitter l'Union européenne. Ce bout de terre est limitrophe avec l'Espagne, dont cette économie prospère qui ignore le chômage dépend considérablement. Pourquoi cette peur panique ? Tout simplement parce que cette frontière devient une frontière extérieure de l'Union européenne et que le principe de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux ne va donc plus de soi. D'autant que Madrid a fait comprendre qu'elle veut la co-souveraineté sur ce territoire, qu'elle a toujours revendiqué, perspective dont ne veulent pas entendre parler les habitants de Gibraltar, jaloux de leur particularisme. L'ennui, c'est que dans le cas contraire, l'Espagne compte accentuer son attitude hostile envers la colonie britannique et parle notamment de faire payer des droits de douane et de compliquer l'entrée quotidienne de 9000 Espagnols travaillant à Gibraltar. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Margallo, semble même se complaire à distiller des menaces à l'endroit des Gibraltariens dans le but de forcer une négociation afin que l'Espagne augmente ses prérogatives, notamment sur l'aéroport, la navigation, la pêche ou les eaux territoriales. Les habitants se sentent désormais moins protégés, un sentiment qui a gagné en force depuis que les autorités à Londres ont reconnu qu'elles seront désormais beaucoup moins en mesure, je cite, « de veiller aux intérêts de sa colonie ». Ici, on est entré dans l'ère de la peur et de l'incertitude.
L'Espagne qui votait ce week-end pour la seconde fois en 6 mois pour permettre enfin la formation d'un gouvernement. Contre toute attente, c'est le Parti Populaire de Mariano Rajoy qui arrive en tête avec 134 sièges, mais pas assez pour gouverner seul. Il faudra trouver une nouvelle coalition. L'autre surprise, c'est le relativement mauvais score de Podemos, ou plutôt d'Unidos Podemos, une coalition entre l'outsider de la politique et Izquierda Unida, héritière du Parti communiste. La formation obtient le même nombre de sièges, 71, mais avec 1,2 million de voix en moins. Qu'est-ce qui a pesé dans ce scrutin? C'est ce qu'a expliqué à Catherine Roland la sociologue Héloïse Ney, auteure de Podemos, de l'indignation aux élections.
Jusqu'à présent, Podemos, c'est un parti assez récent, qui a 2 ans et demi. Jusqu'à présent, Podemos avait cherché à dépasser le clivage gauche-droite, justement en disant que ce clivage les aidait pas, ne leur permettait pas de remporter les élections, mais aidait surtout les partis traditionnels et les médias pour les placer à l'extrême-gauche comme parti de gauche radicale et donc leur laisser une place marginale sur la scène électorale. Là, en s'alliant avec Izquierda Unida, qui est une coalition de partis autour du Parti communiste espagnol, effectivement, ça les mettait beaucoup plus à gauche. Donc, on est retourné dans un clivage un peu plus traditionnel, on va dire, et qui semble avoir profité plutôt au parti traditionnel, hein, au parti populaire, et puis dans une moindre mesure au PSOE, hein, qui obtient quand même un résultat très mauvais. Mais ça a quand même joué en leur défaveur, probablement, alors que c'était, disons, une stratégie qui n'était pas celle qu'ils avaient au départ.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet Brexit? Est-ce que les électeurs espagnols n'ont pas eu peur? N'ont pas eu peur, par exemple, des velléités d'indépendance de la Catalogne, et ont choisi plutôt la stabilité?
Alors ça, c'est possible, ça que c'est difficile de le mesurer, mais c'est un résultat qui est tombé, le Brexit, 2 jours avant le scrutin espagnol, et surtout, beaucoup de candidats, sauf ceux de Unidos Podemos, mais tous les autres candidats, en fait, s'en sont servis pour discréditer l'option proposée Unidos Podemos, notamment sur cette question de la Catalogne, parce que Unidos Podemos propose d'organiser un référendum autour de la question de l'indépendance de la Catalogne pour trouver une solution à la question territoriale, et c'était beaucoup inspiré de ce qu'avait mis en place le Royaume-Uni pour l'Écosse. Et donc ça a pu jouer effectivement des faveurs d'Unidos Podemos, et puis il y a eu beaucoup d'appels effectivement à la modération, au fait que ce n'était pas le moment d'essayer de nouvelles choses, hein, notamment Mariano Rajoy qui a mis ça en avant, en s'appuyant sur le Brexit, et c'est possible que ça a du coup joué notamment sur le vote des indécis qui était assez nombreux en fait pour ces élections.
Alors on l'a donc constaté, vous l'avez dit, le Parti Populaire remporte cette élection, malgré tout il n'a pas de majorité absolue une fois de plus. Il y a donc de longues négociations de nouveau qui risquent de se produire.
Alors effectivement, c'est vrai qu'on a finalement avec quelques changements, hein, mais on a quand même un panorama qui reste assez proche des derniers scrutins de décembre, dans le sens où le Parti Populaire est premier, avec un meilleur score, mais sans majorité absolue. Avec Ciudadanos, donc le nouveau parti droite libérale, ils sont plus près, mais ils sont toujours à 7 sièges de la majorité absolue. Et puis après, on a un ordre qui est quand même assez similaire, donc on n'a pas la composition du gouvernement là à l'issue des élections. Il va devoir y avoir à nouveau des négociations qui s'annoncent peut-être plus clair. Le bloc de droite est plus clairement en avance que le bloc de gauche que lors des dernières élections, mais il faudrait au moins en fait une abstention du Parti Socialiste pour que le Parti Populaire puisse gouverner, parce que même avec les partis régionalistes, ça risque d'être compliqué pour le Parti Populaire. Donc il y aura probablement quand même un accord qui sera trouvé, parce que avoir à nouveau une des troisièmes élections, ça risque d'être un petit peu répétitif. Enfin, je pense que ça a joué aussi la lassitude des électeurs de devoir retourner voter. Mais en tout cas, c'est pas clair non plus le gouvernement qui en sortira à l'issue des élections.
Oui, le Parti Socialiste Espagnol et Ciudadanos qui viennent de faire savoir qu'ils ne soutiendraient pas un gouvernement dirigé par Mariano Rajoy. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.